Famille, justice, enfance.
Bonjour et bienvenue dans le numéro 119 de Famille, Justice, Enfance avec Stéphane sur RLP, Radio Libre en Périgord 102.3 depuis Périgueux et donc le Périgord. Famille, Justice, Enfance, l'émission qui étudie la famille contemporaine, la protection de l'enfance et tout ce qui tourne autour, ainsi que les incidences de la justice d'aujourd'hui dans cet écosystème. Durant cette émission, nous verrons la troisième et dernière partie de notre entretien avec Sébastien Dupont, docteur en psychologie, thérapeute familial et conjugal, chargé d'enseignement à la Fac de Psycho de Strasbourg et auteur chez RS Flammarion ainsi qu'aux presses universitaires de France, qui a commis notamment le cycle de vie des familles contemporaines, seul parmi les autres, entre tradition et modernité, la thérapie familiale, errance et solitude chez les jeunes, l'autodestruction du mouvement psychanalytique et la famille aujourd'hui, pour n'en citer que quelques-uns. Nous aborderons aujourd'hui avec lui les deux points suivants. 1. Le père après la séparation, l'importance du dialogue entre les parents, la relation père-enfant. Et 2. Le père face aux professionnels du champ psychomédico-social. Voilà, ce sera donc la série d'une 3 émissions autour de la thématique « Le père et l'enfant ». Mais tout d'abord, quelques actualités, ne bougez pas, c'est juste après ça.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
La dernière newsletter de l'association Égalité Parentale, une association amie dirigée par Thierry Berger, que vous avez entendu plusieurs fois sur cette antenne, publie dans sa newsletter de septembre une remarque importante concernant l'École nationale de la magistrature. Donc, il indique que malgré leurs 5 rendez-vous à l'ENM, l'École nationale de la magistrature, donc le récent dernier avec la directrice, il n'existe toujours pas de contradictoire, c'est-à-dire que l'ENM persiste à enseigner la théorie de l'attachement de l'enfant à la mère seule, et ce jusqu'à 5-6 ans, qui glisse jusqu'à l'adolescence. Bah oui, c'est un peu comme Winnicott, ils estiment que ce qui se passe au niveau du bébé et des besoins physiologiques est en fait quasiment à vie. C'est embêtant, selon eux, le contradictoire existerait, mais bon, nos précieux soutiens, comme les pédopsychiatres Boris Cyrulnik, Christine Castelin-Meunier, etc., qui se sont proposés d'y dispenser des modules de formation, ils sont comme indésirables. Pire, le contenu des formations de l'École nationale de la magistrature est inconnu. C'est un secret bien gardé. C'est pire que dans les entreprises habilitées confidentielles défense. Sauf qu'ici, il s'agit d'hommes, ou plutôt majoritairement de femmes, qui jugent nos hommes et nos familles. Et on n'arrive pas à savoir quel est le contenu de leurs cours. Et pire que cela, on n'arrive pas à aller y proposer des modules. C'est fermé, c'est verrouillé, et c'est absolument intolérable. Ce n'est plus du droit, c'est de la doctrine.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Aliénation parentale avec un article sur le blog atoutfemmes.com qui est signalé par l'association ACALPA. Aliénation parentale, de quelles armes juridiques dispose le parent victime? Alors, plusieurs textes de loi et articles du code pénal font référence à ce type de violence et de maltraitance. Les articles de référence diffèrent selon l'angle sous lequel on examine les faits et selon qu'il s'agisse de violences sur conjoint, sur ex-conjoint ou sur enfant ou encore de l'incapacité pour le parent à respecter les droits de l'autre. L'aliénation parentale à l'égard de l'enfant relève de l'article 222.14.3 du Code pénal qui traite des maltraitances et violences psychologiques. Vis-à-vis du parent aliéné, il est question de violences psychologiques mais aussi de harcèlement au regard de l'article 222.33.2.1 du Code pénal. Ensuite, l'article 373.2.11.3 du Code civil permet de pouvoir considérer que le parent aliénant comme incapable de respecter les droits de l'autre parent. Quant à l'article 373.2.11.6 du Code civil, il considère l'aliénation parentale comme une forme de violence psychologique et de pression exercée sur l'autre parent. Cet article explique éventuellement les recours qu'il peut y avoir, les moyens de prévention. Il sera copié, il est copié sur notre page Facebook, la page Facebook de l'association Équité Parentale.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Sébastien Dupont, docteur en psychologie, qui nous parle de la famille et de paternité, aujourd'hui sur RLP. Nous avons vu précédemment l'histoire de la répartition des rôles entre père et mère, l'importance du père dans l'éducation des enfants, l'impact du père, les particularités de l'éducation paternelle, l'importance de la coparentalité. Nous allons maintenant rentrer dans ce qui saigne un peu, c'est-à-dire le produit de notre société de recomposition, nous sommes tous des enfants de divorcés ou nous sommes tous au moins au contact d'enfants de divorcés, les familles parfois se recomposent jusqu'à avoir plusieurs mariages dans une vie avec des enfants, des beaux-enfants et autres. Alors, le père, après la séparation, je crois que ça mérite un petit chapitre. Comment, enfin, vous avez étudié aussi cette position à avoir après une séparation, l'importance du dialogue entre les parents, la relation père-enfant, quand ça se passe bien et aussi quand ça se passe mal.
Donc, bien sûr, là, le thème sur lequel vous êtes spécialisé, et d'ailleurs que vous connaissez sans doute mieux que moi, je consulte comme vous les données statistiques, les sociologues de la famille et du lien social nous ont appris beaucoup de choses dans ce domaine et les statistiques restent assez effrayantes, surtout les statistiques de long terme, pas seulement les statistiques qui concernent l'immédiat après jugement ou l'année qui suit, mais le long cours, plusieurs années lorsque l'enfant devient un majeur, etc. On sait par exemple que chez les enfants mineurs de parents séparés, 67% de ces enfants vivent exclusivement chez leur mère. On rappelle fréquemment cette autre statistique, 40% des enfants de parents séparés ne voient leur père que rarement, quelques fois par an ou jamais. On sait aussi qu'il y a une forte accentuation sociale, hein, que plus on descend dans les catégories sociales vers les plus modestes, plus la probabilité du rupture de lien est grande. Et bien sûr, je sais que vous soulignez aussi dans vos émissions que ce délitement du lien au père s'étend souvent, trop souvent, à toute la famille paternelle. Alors bien sûr, il y a beaucoup de recherches, beaucoup d'hypothèses sur cette fragilisation du lien post-séparation. C'est qu'il y a beaucoup de facteurs, que c'est au fait un phénomène multifactoriel. On ne soulignera jamais assez que le premier facteur, c'est la difficulté à maintenir un dialogue cordial entre père et mère, la persistance des conflits, hein, ça restera toujours ça le principal facteur. Hein. Ça devrait, dans toutes les séparations, être la priorité, maintenir le dialogue entre les parents pour assurer les liens à venir, tous les liens. Ensuite, on a beaucoup d'autres facteurs sur lesquels les sociologues attirent notre attention, des facteurs matériels, comme par exemple, est-ce que le père a ou pas la capacité matérielle d'accueillir l'enfant dans un nouveau domicile dans la suite immédiate de la séparation. Et on sait que nombre de pères qui retournent vivre chez leurs propres parents ou qui se retrouvent en foyer ou dans un studio pendant un an, pendant deux ans. Certains vont avoir honte, n'accueilleront pas leurs enfants, vont différer. Et on sait que de trop différer comme ça, la possibilité d'accueillir l'enfant compte énormément. Je souligne ce genre de point parce que c'est décisif. On a des nouveaux dispositifs sociaux très intéressants qui mettent à disposition des appart-hôtels, le temps des jours de résidence, le temps de vacances, pour que le père ait la possibilité d'accueillir ses enfants dans l'immédiate suite de la séparation avant de pouvoir, si c'est possible, avoir un logement qui le permette. Mais je souligne aussi ce point parce qu'il y aurait des évolutions à faire au niveau des politiques sociales, notamment en termes d'accès à l'habitat social. On sait que les parents qui ont moins de 20% de temps de garde des enfants accèdent difficilement à l'habitat social, au HLM.
Oui, avoir une chambre pour recevoir l'enfant, parce que si vous n'avez pas de chambre pour recevoir l'enfant, vous ne pouvez pas demander la résidence alternée.
Voilà, c'est ça. Et là, ce que vous décrivez bien, c'est un système qui se boucle sur lui-même, en fait. Un autre facteur, bien sûr, c'est l'éloignement géographique entre les deux parents, les problèmes financiers, bien sûr. Les deux parents n'ont pas toujours prévu à quel point la séparation allait les mettre en difficulté financièrement. On sait notamment que dans les milieux modestes, la simple question de financer les trajets en train, les trajets en voiture, rendre difficile le maintien des liens. On sait aussi, là c'est un fait statistique de moyenne, que la présence d'un nouveau compagnon de la mère, d'un beau-père, diminue la probabilité que l'enfant conserve le lien avec son père. En fait, là, on observe des résidus en fait, de notre histoire, hein, de persistance du modèle traditionnel substitutif, c'est-à-dire la famille recomposée du 19e siècle. Le père est décédé, il est remplacé par un autre homme qui devient le père de substitution.
Oui, la mère désigne le père, sauf qu'une fois que l'ancrage est fait, normalement, c'est censé ne plus marcher. marcher, elle ne peut le faire qu'une seule fois.
C'est ça. En fait, c'est le modèle que, traditionnel de la famille, du système matrimonial de filiation que décrit la sociologue Irène Théry. Deux parents, un père, une mère, pas un de plus, pas un de moins. Et on a encore des difficultés aujourd'hui dans cette période de transition culturelle à penser l'enfant comme pouvant vivre dans plusieurs ménages, avec plus que deux figures parentales dans sa vie, etc. Ensuite, du point de vue interactif, on a des cercles vicieux relationnels, psychologiques, qui peuvent paraître anodins, mais qui, en s'accumulant à d'autres facteurs, comptent beaucoup dans la fragilisation du lien. Par exemple, il y a un cercle vicieux très fréquent qu'on observe chez les pères qui ont une garde très minoritaire, le week-end sur deux, la moitié des vacances. Si ces pères qui ont peu de contact avec la mère, la communication est très difficile, ces pères se trouvent dans la situation d'avoir très peu d'informations, tout simplement, sur la vie de leur enfant. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'enfant? L'école, les loisirs, etc. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils voient leur enfant, ils vont poser des questions à l'enfant pour avoir des informations, mais souvent, l'enfant va s'apercevoir que les questions du père montrent qu'il a déjà peu d'informations. C'est-à-dire, pour le dire familièrement, le père est un petit peu à côté de la plaque. C'est-à-dire, il pose des questions un peu hors sujet, ou tant pis, il va demander « alors ça c'est bien passé ton exposé, mais non, c'est la semaine prochaine mon exposé, etc. » Et en fait, qu'est-ce qu'on observe? Je sais que beaucoup de pères m'en ont parlé. Le père s'aperçoit que l'enfant s'aperçoit que le père a peu d'informations. Le père a honte de poser des questions un peu hors sujet qui montrent qu'il a peu d'informations. Et du coup, comment réagissent certains pères? Eh bien, ils vont poser moins de questions. Et comme ils posent moins de questions, ils ont encore moins d'informations. Et comme ils posent moins de questions, en fait, plutôt par honte, par mal-être, parce que ces discussions ne sont pas toujours très agréables, l'enfant peut avoir l'impression, souvent à tort, que le père se désintéresse de lui.
Oui, ça, c'est le cauchemar absolu qu'on voit en permanence. Avec, quand il vient de nous voir, il pleure et tout, et puis le lien s'effrite et parfois se casse.
Ça. Et par rapport à cette fragilisation du lien, alors bien sûr, beaucoup de démarches sont entreprises. Vous parlez souvent dans vos émissions de la médiation familiale qui devrait être une priorité dès les séparations, voire même avant que les parents se soient séparés.
Et qui ne fonctionne que si les deux le veulent. Il suffit qu'un seul ne le veuille pas et ça ne fonctionne pas.
C'est ça. Et d'autres pays ont eu la bonne idée de l'imposer.
Oui.
Et en fait, ça marche pas si mal.
Et celui qui ne respecte pas, effectivement, se fait sanctionner. Oui, bah oui, tout à fait. Ça. Comme les enfants.
Et surtout, lorsqu'elle est imposée très tôt, dès le début, qu'on n'a pas accumulé trop de passifs.
Bah, nous l'ont tous dit, ça. Hein, une séparation doit se gérer dans les premiers instants. Autrement, après, on fait de l'accompagnement de problèmes.
C'est très, très vrai. Après, par rapport aux pères séparés spécifiquement, il me semble qu'on pourrait, en continuant ce qu'on fait déjà, davantage faire évoluer les dispositifs, les prises en charge sociales, psychosociales, éducatives et autres, vers un état d'esprit d'accompagnement des pères plutôt que d'évaluation des pères. Le risque toujours dans les séparations, c'est de dévaluer. Bon, alors les parents se séparent. Est-ce qu'avant la séparation, est-ce que le père changeait les couches? Non. Donc, bon, ça c'est un argument défavorable pour qu'il s'occupe de l'enfant. Mais ça part toujours de l'idée que, en fait, ce que le père ne faisait pas avant, il ne pourrait pas l'apprendre après. Or, en effet, il y a des pères qui, avant la séparation, ne faisaient pas certaines choses ou s'occupaient peu de tel ou tel domaine. Mais dans certains cas, ce n'est pas parce que le père s'occupait peu de tel ou tel domaine qu'il ne peut pas apprendre à le faire. C'est en Belgique que se sont montées des maisons des pères qui interviennent sur des dimensions très concrètes de la vie. Plutôt que de culpabiliser les pères, de les juger, voyons avec eux de quoi ils ont besoin. Est-ce que ce qu'ils savent mal faire, c'est cuisiner de manière adaptée à l'âge de l'enfant? Eh bien, on va les aider. Ça peut s'apprendre, etc.
Sur l'être humain est en évolution constante, oui, bien sûr.
Là, on peut, tout peut s'apprendre. Autre chose, une piste très importante, ce serait de repenser la répartition des jours de résidence. Vraiment rompre, en tout cas, avec le modèle classique du week-end sur deux et de la moitié des vacances. On sait maintenant, on a suffisamment de recul sur le fait que ça ne marche pas. Je lisais encore une étude, une méta-analyse, donc une synthèse de nombreuses études, qui montrait que le temps minimum accordé au père qui permet en fait un maintien satisfaisant du lien, le bien-être de l'enfant, le bien-être du père, etc., c'est 30% du temps de vie de l'enfant. 30%, ce qui est beaucoup, ce qui est significatif. Et d'ailleurs, les études dans ce domaine, souvent non françaises en effet, montrent que l'augmentation du temps de résidence chez le père, en comparaison avec le week-end sur deux, n'a pas d'impact négatif sur le lien entre l'enfant et la mère et n'a pas d'impact négatif sur l'enfant. Alors après, il y a d'autres critères qualitatifs que mettent en évidence ces études. Par exemple, elles montrent que pour arriver à quelque chose de satisfaisant, il faut que le père ait des jours d'école, des jours de vraie vie, la vraie vie. Emmener l'enfant à l'école pendant le soir, les devoirs, les problèmes, l'exposé, la récitation, la vraie vie. Éviter de n'avoir l'enfant que pendant des temps trop exceptionnels comme les vacances, les week-ends, etc.
C'est le syndrome du papa popcorn qui se réduit à partager des loisirs très ponctuels, en fait.
Voilà, c'est ça. Et au fond, ce vers quoi on devrait aller, c'est une des visées de la médiation familiale, c'est d'aider les parents à inventer des modes de garde à la carte, adaptés à leur situation professionnelle, géographique, contrainte, horaire, etc. Le plus subtil possible, qui n'est ni le week-end sur deux, ni forcément la résidence alternée 50-50. Quelque chose entre les deux, et si possible, flexible. Alors, évidemment, c'est lié à la capacité des parents à coopérer. On sait, par exemple, que quel que soit le mode de garde, seront délétères les modes de garde rigides. C'est-à-dire les modes de garde où tout est prévu pour toute l'année, les parents ne communiquent pas, et quels que soient les aléas de la vie de l'enfant, tous les vendredis à 17h sur le parking, ça, c'est délétère. Parce que la vie de l'enfant et surtout des petits-enfants, bien sûr, est faite d'imprévus, de petits problèmes, d'aléas, etc. Et l'enfant a besoin qu'on s'adapte, qu'on coopère.
Oui, qu'on sort de la rigidité, du conflit,
bien sûr. Voilà, c'est ça, exactement.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Sébastien Dupont sur RLP toujours. Nous allons conclure sur cette dernière question. Le père face aux professionnels du champ psychomédico-social. Donc nous avons entendu ce que vous venez de dire. Vous êtes, vous, un partisan du lien entre l'enfant et le père. Vous participez à ce courant de pensée qui dit que un enfant qui n'accède pas suffisamment à l'un des deux parents, au jour d'aujourd'hui, notre émission à nous, le père, c'est néfaste pour lui, qu'il faudrait qu'il y ait un rééquilibrage. Alors comment se fait-il que les professionnels de notre société, aujourd'hui au 21e siècle, ne soient pas sensibilisés sur ce point ?
Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est reconnaître que ça dépend beaucoup des domaines. C'est par exemple que le domaine de la toute petite enfance est plutôt précurseur. Le plus précurseur, c'était les maternités. Les maternités ont fait un énorme travail pour mieux accueillir les pères, améliorer l'implication du père pendant l'accouchement et pendant les jours qui suivent la naissance, et même pendant la préparation à la naissance. Et après, il y a d'autres domaines où l'évolution se fait aussi, comme l'école ou d'autres, mais c'est parfois plus lent, il y a une force d'inertie, etc. Mais en effet, ce qu'on observe, et d'ailleurs Christine Castelin-Meunier, que vous avez déjà eu à ce même micro, fait des études à ce sujet, on observe qu'une partie des professionnels, notamment dans le domaine du soin, les pédiatres, les médecins généralistes, etc., peuvent avoir tendance, souvent sans aucune mauvaise intention et sans souvent en avoir conscience, peuvent avoir tendance à considérer le père un peu comme le deuxième parent, pour ne pas dire parfois un peu comme un subalterne, comme un stagiaire de la mère. Christine Castelin-Meunier évoque comme ça ses études qui montrent des témoignages de pères qui sont en fait un peu tragicomiques, de pères qui, par exemple, font l'effort de réduire leur journée pour aller chercher l'enfant à la crèche, ils cherchent l'enfant à la crèche, et il y a un témoignage comme ça de père où la professionnelle amène l'enfant au père, lui dit comment la journée s'est passée, et elle dit au père, bon, eh bien, vous direz à sa mère qu'il a bien pris son sirop. Comme si le père était une sorte d'assistant, en fait, du vrai parent qui est la mère.
Oui, parce que je suis sûr qu'elle dira jamais à la mère, vous direz au père que...
C'est ça. Et après, d'autres études, ce qui est intéressant, c'est que c'est parfois des études qui ne visaient pas à évaluer cette dimension au premier abord. Donc, des études qui sont faites sur l'éducation thérapeutique au diabète, ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on évalue l'expérience des parents après des consultations médicales spécialisées, ou des consultations pédiatriques, etc. Eh bien, ça fait ressortir que souvent, fréquemment, encore aujourd'hui, les pères témoignent qu'ils se sont sentis mis à l'écart pendant l'entretien. Les pères disent « mais je suis venu, j'ai pris un demi-RTT pour ce rendez-vous, cette consultation qui était importante, et je n'ai pas croisé les yeux du pédiatre. Le pédiatre ne regardait que ma femme. Lorsque je posais une question, il répondait à ma femme. J'en garde le sentiment désagréable d'avoir été mis de côté. »
Oh monsieur, moi j'ai un exemple d'un père qui a amené sa fille à l'hôpital et les gens se demandaient pourquoi c'était le père qui emmenait la fille à l'hôpital et non pas la mère. Et puis ils ont fini par voir, lorsque il y avait une situation de divorce et que les parents communiquaient peu, ils ont fait une information préoccupante parce que c'est quand même pas normal, hein, c'est monsieur qui amène leur fille à l'hôpital, ça devrait être la mère qui le fait quand même. Hein. Donc ça peut aller très loin, ces stéréotypes quand même de genre.
Après, il y a d'autres facteurs que l'on pense pas forcément directement. Par exemple, l'hyperféminisation de la plupart des professions qui entourent l'enfance,
oui, c'est
que
vrai.
Ce soit du soin, du social ou même désormais de l'éducation nationale, les professeurs des écoles.
Dans le judiciaire aussi, les magistrats. Oui.
Et en fait, on a des études comme ça qui montrent que une partie des pères, en tout cas, se sentent un peu mal à l'aise dans ces univers extrêmement féminins. Et ils peuvent être attentifs à des signes, alors ça a l'air de peu d'importance, mais ils y sont attentifs, comme les signes d'aller dans un dispositif, une salle d'attente, un CMP, un CMPP.
Alors moi j'ai des retours de très très grands moments de solitude.
Hein. et ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent qu'ils sont sensibles à certaines choses. Par exemple, si sur la table de la salle d'attente, ils ne voient que des revues de presse féminine, ils peuvent déjà percevoir un signe: je ne suis pas le bienvenu ici. Je ne suis pas accueilli. Je ne suis pas vraiment à ma place. Et donc, on sait, alors, je sais que ça peut peut-être ne pas être agréable d'évoquer ces questions aujourd'hui où on parle beaucoup de dépasser le genre, etc. Mais on sait que ça peut mettre les pères à l'aise qu'il y ait un peu d'hommes parmi les professionnels. On le sait, par exemple, à propos des groupes de parole. On sait que les pères vont plus facilement à des groupes de parole s'il est animé par un homme. On sait aussi qu'on peut adapter, alors je ne voudrais surtout pas paraître comme ça sexiste, il y a les hommes, les femmes, etc. Mais on sait qu'on peut adapter certains dispositifs éducatifs, sociaux, à ce qu'on pourrait appeler la culture masculine moyenne. Par exemple, on sait que les pères vont beaucoup plus participer à des dispositifs qui consistent à faire une activité plutôt qu'à des dispositifs qui consistent à se confier ou à parler. Par exemple, dans le domaine de la préparation à la naissance, on sait que les groupes de parole de pères ont un succès modéré. En revanche, des groupes qui sont présentés comme « venez, vous allez apprendre à changer l'enfant, vous allez apprendre à le moucher, vous allez apprendre tous ces gestes qui vous seront utiles une fois que l'enfant sera là », les pères viennent davantage. Ce qui d'ailleurs n'empêche pas que ces groupes, qui ont l'air d'être des groupes de formation, deviennent en partie des groupes de parole. Mais pour être plus pair-friendly, il ne faut pas le présenter comme un groupe étant avant tout un groupe de parole, ce qui a tendance en moyenne à parler davantage aux femmes, donc aux mères.
Oui, le père cherche de l'implication pour se rassurer parce que peut-être qu'il en a moins l'habitude ou l'impression qu'il en a moins l'habitude, donc il veut pratiquer, il veut faire, il montre qu'il veut faire.
Ça. Et après, on sait qu'on peut renvoyer des signes positifs qui impliquent au père, et c'est tous les signes qu'ils sont importants. Les institutions doivent être vigilants à ça. Moi qui travaille dans le champ psychomédico-social, je le vois. Il y a encore aujourd'hui des institutions qui, dans la salle d'attente, il n'y a que des mères et des enfants. Il y a parfois des enfants qui ont des suivis de plusieurs mois, plusieurs années, sans que les professionnels aient jamais rencontré le père, ou alors qu'ils le rencontrent bien plus tard, bien après avoir engagé des prises en charge avec l'enfant et avec sa mère. Et évidemment, là, c'est déjà renvoyé au père un message: vous arrivez après, on vous appelle plus tard, on vous demande votre avis, votre vécu après. Donc ça, c'est un mauvais message. Et donc, il est important que les professionnels du champ psychomédico-social, les institutions, impliquent d'emblée les deux parents, que les écoles impliquent d'emblée les deux parents, et que lorsque le professionnel rencontre les pères, ils soulignent à quel point leur avis, ce qu'ils ont à dire, les questions qu'ils ont à poser, est important et souligne à quel point ce qu'ils font est important. C'est pour ça que même si ce qu'ils font n'est pas extraordinaire, puisque moi je dirais que, y compris dans tout ce qui se dit, s'écrit aujourd'hui sur les pères, je trouve qu'il y a un biais récurrent, c'est qu'on parle beaucoup des pères qui sont des monstres, bon, les pères maltraitants, les pères violents, les pères incestueux, etc., les pères pervers narcissiques, etc. On parle aussi des pères qui sont des héros, donc les pères qui prennent un congé parental, les pères au foyer, etc. Mais on parle peu, en fait, de 90% des pères. Les pères ordinaires, les pères moyens, les pères tels qu'ils sont en moyenne. Et en fait, ces pères-là qui sont moyens, eh bien, ce qu'ils font d'ordinaire n'en est pas moins extraordinaire pour le développement de l'enfant, et cela va des revenus qu'ils apportent à la famille à jouer par terre, à chahuter avec l'enfant, comme je l'ai décrit précédemment. Et ces petites choses font beaucoup et peu de gens le leur disent.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Monsieur Dupont, est-ce que vous travaillez actuellement sur un nouveau livre ? Vous avez une actualité, des conférences en prévision, des articles ?
Je travaille justement sur un ouvrage sur le père.
Ah, magnifique. Il faudra venir nous en parler. Vous savez chez qui ? Vous savez quand ?
Non, pas du tout. J'espère que ce sera l'année prochaine ou l'année suivante. C'est en cours.
Bon, en tout cas, merci pour cet entretien. Vous nous avez consacré un temps qu'on apprécie énormément. Je sais que vous êtes très sollicité. Vous coordonnez le diplôme universitaire de thérapie familiale à Strasbourg. Vous faites partie du réseau de pros. Enfin, vous êtes assez impliqué dans beaucoup de domaines. Et c'est vraiment très gentil de nous avoir consacré ainsi 1h30. Merci, monsieur. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Voici maintenant la chanson de la semaine. Famille, justice, enfance.
Au fond, j'ai trouvé. fait pas.